particulièrement du web collaboratif en lien avec un ouvrage publié il y a quelques mois avec un collègue Jacob Matthews. Et dans cet ouvrage, nous sommes intéressés finalement au web collaboratif en l'étudiant à l'aune des théories, des perspectives qui avaient été développées antérieurement par des chercheurs sur les industries de la culture, hein, des chercheurs comme toi, Gaëtan, comme Bernard, comme Pierre Meuglin ou comme Jean-Guy Lacroix. Et notre perspective avec Jacob Matthews était peut-être de prendre de la distance avec l'ensemble des discours souvent fortement empreints de déterminisme technologique que l'on voit se développer autour du web collaboratif, et finalement d'envisager celui-ci dans la continuité des industries, de la culture, de la communication, et peut-être même, c'était notre hypothèse, comme l'une des composantes des industries de la culture et de la communication, et non pas comme une nouvelle étape dans l'histoire médiatique, une nouvelle étape qui amènerait la mort, la disparition des industries de la culture et de la communication. Notre hypothèse, à l'inverse, était même qu'en fait, avec le web collaboratif ou le web 2.0, on assistait à un renforcement de certains phénomènes dits d'industrialisation ou de marchandisation de la culture et de la communication. Alors, peut-être qu'il serait utile que dans un premier temps, en guise de préalable, que je dise quelques mots sur ces recherches sur les industries de la culture. Et là, évidemment, la présence de Gaëtan, je ne connais pas les autres personnes qui sont dans la salle, mais la présence de Gaëtan sera précieuse, qu'il pourra amener des corrections et des compléments avec ce que je vais dire. Il est important donc de rappeler ces grandes perspectives développées par ces chercheurs, parce qu'elles nous ont servi de guide pour aborder le web collaboratif, mais aussi parce qu'elles posent les bases de ce qu'est peut-être une pensée critique sur les industries de la culture et de la communication. Alors, je vais parler plutôt du cas français, et en étendant à des chercheurs francophones, hein, comme toi, Gaëtan, ou Jean-Guy. Je ne vais pas parler de l'ensemble des recherches en communication sur les industries culturelles, pas simplement parce que je n'aurai pas le temps, mais aussi parce que ce n'est pas le corpus théorique qui nous a servi de référence. Alors, on voit ces recherches en France, et je ne sais pas ce qu'il en est du Québec, mais en France, on voit ces recherches commencer à se développer à partir de la toute fin des années 70, et visiblement, me semble-t-il, elles ne se développent pas principalement à l'université, mais en dehors de l'université. Des chercheurs tels que Patrice Fichy ou Bernard Miège débutent à cette époque des réflexions sur les thématiques des industries de la culture, et Bernard Miège, à l'époque, n'est pas universitaire, il travaille pour le ministère de la Culture dans un service d'études. Alors, ces recherches qui s'initient à cette époque se font, se développent face à trois perspectives. Tout d'abord, il y a une volonté de poursuivre, de dépasser les recherches de l'école de Francfort, certainement en ayant une approche plus précise, plus à l'écoute des terrains, des industries de la culture et de la communication. Second grande perspective qui anime ces chercheurs, c'est de prendre des distances avec les recherches académiques, qui dans le cas français s'intéresse plus à la culture, mais à la culture savante, à la culture d'élite, et qui délaisse ces thématiques des industries culturelles. Et il faut noter que lorsque les chercheurs, notamment les économistes en France, s'intéresseront aux industries culturelles, reprenant d'ailleurs assez largement des études nord-américaines, ils vont considérer l'économie des industries culturelles comme une économie malade. Je reprends les perspectives de Baumol, à l'origine faite pour le spectacle vivant, mais qui vont être apportées dans les industries culturelles. Et on va considérer, des chercheurs en France, enfin des chercheurs contemporains comme Françoise Badamou en est assez représentative, on va considérer que l'économie des industries culturelles dysfonctionne, notamment parce qu'elle surproduit On va considérer aussi que si cette économie dysfonctionne, c'est peut-être parce qu'elle est subventionnée. Voilà, donc beaucoup de chercheurs, notamment d'économistes, vont préconiser une suppression, une diminution du soutien public aux industries culturelles, afin de faire mûrir cette économie des industries culturelles. Troisième mouvement face auquel se positionnent les chercheurs, et notamment en France, c'est l'intérêt ministériel nouveau sous c'était de François Mitterrand et avec Jack Lang, le ministère des Cultures, intérêt nouveau pour les industries culturelles qui apparaît sous l'axe politique que Jack Lang avait qualifié de réconcilier économie et culture. Et c'est l'époque en France où on s'intéresse beaucoup aux industries culturelles comme étant une solution de sortie de crise. On ne parle pas encore d'industrie créative, mais l'idée, elle est là. On voit se développer, où on anticipe le développement d'une vaste économie des loisirs dont les contours sont encore très, très flous, mais dont on pense qu'elle sera un axe essentiel de développement pour l'économie française dans les années 80 face à la disparition d'industries, enfin, de pas entier, des industries de la première ou de la seconde révolution industrielle. Et bien évidemment, ces développements se font sans prendre en compte, ces développements politiques se font sans prendre en compte les réelles spécificités des industries de la culture. Et c'est sans doute là l'objectif principal des chercheurs qui s'y intéressent, c'est essayer de comprendre quelles sont les spécificités des industries culturelles, non pas de les voir donc, comme des industries malades, mais peut-être d'envisager ceci comme fonctionnant de manière structurelle dans des logiques de crise. Donc comprendre en quoi elles se différencient des autres industries, même si elles-mêmes présentent en même temps des différences importantes entre les filières, entre la filière de la presse, du livre, de l'audiovisuel. Les chercheurs vont justement penser des différences importantes. Alors, ils vont s'appuyer sur la notion de modèle ou de logique. Patrice Fichy puis Bernard Miège proposeront les logiques pour Fichy de flux de marchandises culturelles et Bernard Miège proposera les logiques de flot et de modèle éditorial. Par la suite, d'autres chercheurs, notamment Gaëtan Tremblay et Jean-Guy Lacroix, s'intéresseront à club privé qui correspond plus particulièrement, semble-t-il, à l'économie de la télévision par satellite ou par câble. Alors, je ne vais pas reprendre l'ensemble de ces recherches, mais on voit quelques bases qui sont posées et qui nous ont servi à Jacob, Matthews et à moi de fondement pour penser le web collaboratif. Tout d'abord, on voit dans ces recherches une réflexion sur la valeur d'usage, sur son caractère aléatoire. On comprend que ce qui fonde les valeurs d'usage des biens culturels, eh bien, c'est l'insertion de travail culturel et donc la personnalité des travailleurs culturels ou artistiques. Donc cette caractéristique entraîne un caractère aléatoire de la valeur d'usage. Les industries culturelles sont confrontées de manière intrinsèque, en tout cas la musique enregistrée ou l'édition, de manière intrinsèque, structurelle, à une grande incertitude. On comprend face à cette incertitude que les logiques de surproduction sont un élément central pour les gérer et non pas le signe d'un dysfonctionnement ou d'une maladie. On comprend aussi, et c'est un second avantage de ces approches, on analyse la structuration du secteur avec de très grandes entreprises, seulement un oligopole, et puis parallèlement des entreprises beaucoup plus petites. Donc apparaît ce que les économistes appellent un oligopole à franges. Donc là aussi, les franges, les petites entreprises ne sont pas vues comme des entreprises qui seraient là de manière artificielle, soutenues par des fonds publics, mais au contraire, comme participants de l'économie du secteur, parce qu'elles sont susceptibles de prendre des risques, mais aussi parce qu'elles assument une part importante des coûts. Il y a toute une réflexion dans ces recherches sur les coûts de production des biens culturels, qui les assument, et on voit que les acteurs qui tiennent la fonction centrale, pour reprendre une terminologie de ces modèles, eh bien, en général, n'assument qu'une part faible des coûts par rapport à d'autres acteurs industriels ou par rapport aux créateurs eux-mêmes. dans ces recherches, on pense aussi le lien entre les supports et les contenus. Une réflexion sur la construction des métiers, sur la construction des genres. Et on comprend que les liens entre un contenu et un support sont forts. Donc on voit bien qu'on ne pourra pas, si on s'appuie sur ces perspectives, on ne pourra pas considérer, comme certains économistes, que grâce à la numérisation, le lien entre contenu et contenant est totalement rompu. On voit bien qu'au-delà de la numérisation, on a affaire à des phénomènes de construction de professions, de construction des genres, donc à des phénomènes anthropologiques de long terme, qu'il faut nécessairement prendre en compte. Dernier grand avantage de ces approches, c'est de penser l'insertion de ces activités dans le capitalisme. Bernard Miège va notamment évoquer la liste toujours en quête de nouveaux espaces d'investissement des capitaux. Donc on comprend, grâce à ces approches, on comprend beaucoup mieux les conditions concrètes de production, de création, de production, diffusion, valorisation de la culture et de la culture industrialisée et son insertion dans le capitalisme. Alors, ces recherches vont se poursuivre dans les années 80-90, notamment avec des changements de cadre, de contexte important, avec les libéralisations, avec la mondialisation, avec le développement de technologies numériques. On voit de nouveaux modèles apparaître. On a parlé du club, mais on pourrait parler aussi des compteurs. Par ailleurs, peut-être aussi faut-il parler des travaux de Pierre Meuglin. Pierre Meuglin ajoute un autre modèle, le courtage informationnel, mais surtout, il introduit il fait préciser une distinction qui était peut-être là de manière latente, mais il la rend peut-être plus explicite, une distinction entre ces modèles envisagés comme des règles du jeu. C'était plutôt sans doute la tendance à laquelle s'insérait Bernard Miège. Il voyait, en tout cas au début de ses recherches, les différents modèles comme structurant les stratégies des acteurs. Alors à terme, dans une logique structurante, structurée, les stratégies des acteurs peuvent modifier les logiques, mais on était dans une perspective de règles du jeu. Pour Pierre Meuglin, ces modèles ont un autre sens, il les voit plutôt en tant qu'idéatypes. On peut donc imaginer que sur un même média, aujourd'hui par exemple sur l'Internet, eh bien, figurent plusieurs modèles, se cohabitent ou s'articulent ou sont en concurrence différents modèles. Il va par ailleurs initier une réflexion sur le lien entre ces modèles envisagés en tant qu'idéaltypes et des modèles d'idéaltypes. Un modèle de l'édition correspondrait pour Pierre Meuglin, un espace public marqué par la culture savante, marqué par un temps long, alors que le modèle de flot correspondrait à la culture de masse. Tandis qu'avec le modèle du courtage informationnel, il met l'accent sur des individus sommés individuellement de faire des choix, donc une perspective cette fois-ci vraiment assise sur l'individu, donc un espace public très différemment pensé par rapport à celui qui était suggéré par le modèle éditorial ou par le modèle de flou. Également, Pierre Meuglin va proposer la notion de tendance industrialisante qui va nous être très utile à Jacob et à moi lorsqu'on va s'intéresser au web collaboratif. Il distingue trois tendances industrialisantes. Premièrement, la technologisation, autrement dit, tout ce qui concerne les liens, le remplacement du facteur travail par le facteur capital. Des phénomènes d'idéologisation, tous les éléments idéals qui favorisent un esprit d'entreprise, un esprit industriel, et des phénomènes dits de rationalisation. Ce sont sans doute ces derniers qui vont le plus nous intéresser. Alors, c'est en utilisant, je contrôle le temps qui me reste, c'est en recourant à ces perspectives théoriques que nous sommes intéressés au web collaboratif. Et on va l'analyser principalement sous deux angles. Premièrement, comme un élément qui renforce les phénomènes de rationalisation au sein des industries de la culture et de la communication. Et deuxièmement, comme un élément qui poursuit la construction de l'espace privé, de la sphère marchande, et qui également crée des liens entre sphère marchande et sphère politique. Alors, premier point auquel nous sommes intéressés, la question de l'intensification finalement des phénomènes d'industrialisation et de marchandisation au sein de la culture et de la communication grâce au web collaboratif. Il nous est apparu qu'on voit 5 formes de rationalisation qui sont favorisées par le web collaboratif. La première forme de rationalisation a trait à la financiarisation. Alors, c'est pas la première fois qu'on s'intéressait à ces questions, mais il nous est apparu que les acteurs de la sphère financière, avec d'autres partenaires, on connaît les efforts de consultants tels que O'Reilly, ont fortement concouru à favoriser l'émergence du web collaboratif, et ce après l'écroulement de la bulle spéculative du début des années 2000. Les investisseurs étaient en quête de nouveaux espaces pour investir les capitaux, de nouveaux espaces qu'il fallait sécuriser, qu'il fallait présenter comme étant sûrs. Et le web collaboratif a été construit. Toutes les perspectives autour du web collaboratif ont été construites en s'appuyant aussi sur des acteurs du monde de la finance. Et on va le voir qu'assez rapidement, les acteurs financiers vont finalement faire confiance aux acteurs du web collaboratif. On va voir que les valorisations boursières dans ce domaine vont devenir très, très importantes. Et O'Reilly, d'ailleurs, va vraiment insister sur cette dimension financière. On pourra peut-être y revenir dans la discussion. Et plus généralement, les questions de financiarisation nous apparaissent comme un élément central dans les phénomènes de rationalisation des industries de la culture et de la communication, puisqu'outre leur dimension plus culturelle et les formes de valorisation qu'on peut retirer à travers l'exploitation des produits culturels, on voit combien les industries de la culture et de la communication financiarisées sont aussi une source de profit complexe mais important pour différents acteurs, notamment des acteurs de la sphère financière. Donc on essaie de penser la financiarisation en essayant d'échapper aux dichotomies courantes entre d'un côté les pensées des économistes autour du modèle de Steiner qui centre la pensée sur financiarisation, concentration et ses avantages supposés pour en tout cas de la concentration pour la diversité des contenus, et de l'autre les analyses souvent radicales qui considèrent que financiarisation équivalait à censure, à perte de diversité culturelle. On a plutôt pensé à la financiarisation finalement dans la perspective d'une réflexion sur l'insertion des industries de la culture et de la communication dans l'économie monde dans l'économie monde. Deuxième point de rationalisation, la question de l'oligopole. Plutôt qu'une disparition des intermédiaires, comme on le dit souvent, le web collaboratif nous semble renforcer le fonctionnement en termes d'oligopole à frange des industries de la culture et de la communication. On voit même au sein du web collaboratif comment cohabitent de très grands acteurs, qui souvent maintenant passent sous la coupe d'acteurs du web ou d'acteurs des médias qui sont étrangers au départ du Web 2. Donc comment cohabitent de grands acteurs, MySpace, YouTube, que tout le monde connaît, après maintenant y rajouter les réseaux sociaux, et de l'autre, des acteurs beaucoup plus petits. On voit que ces deux acteurs ne jouent pas du tout le même rôle. Les premiers jouent clairement un rôle aux côtés des grands acteurs tels que Google et participent finalement aux fonctions de gatekeeper de ces grands acteurs. Tandis que les seconds, les plus petits, les acteurs du web les plus petits, participent à notamment à la quête de nouveaux contenus, aux nouveaux phénomènes aussi de renouvellement du vivier qui passe aujourd'hui par du vivier de créateurs qui passe aujourd'hui par le web 2. Troisième forme de rationalisation, celle qui a trait aux politiques publiques. Et là, on voit finalement combien le Web 2 participe à tout ce discours sur l'abondance informationnelle, qui est un discours qui n'a pas attendu le Web 2, mais qui s'est développé plus encore avec le Web 2. C'est l'idée que grâce au TIC, eh bien, on n'a jamais eu autant de contenu qui était accessible, auquel on pouvait accéder facilement, y compris avec le piratage. Et aujourd'hui, grâce au Web 2, bah, d'une part, ces contenus peuvent se multiplient grâce au UGC, et d'autre part, ils sont enrichis par les échanges entre internautes. Alors là, on voit combien ce discours renvoie aussi à une évolution du droit de la concurrence, puisque finalement, ces discours de l'abondance informationnelle suggèrent qu'on pourrait penser aujourd'hui une politique de la concurrence, comme c'est le cas en Europe d'ailleurs, depuis la réforme de 2004, une politique de la concurrence qui n'envisage pas les questions de diversité culturelle, qui renvoie ces questions à d'autres instances, dépourvu d'ailleurs de tout pouvoir réglementaire en matière de concurrence et qui aborde la question de diversité culturelle d'une façon aéconomique, alors que le droit de la concurrence et toute la réflexion autour de la concurrence se veut gérer de manière scientifique, c'est-à-dire selon les considérants de la politique européenne, hein, de manière économique et strictement économique, en n'envisageant pas d'autres perspectives, notamment de perspectives culturelles. Deuxième phénomène de rationalisation au sein des politiques publiques, on voit finalement aussi combien le Web 2 participe aujourd'hui du mouvement en faveur des industries créatives, hein, c'est-à-dire de cette ouverture de la notion de culture vers des réalités qui objectivement pourtant lui sont étrangères. Et on voit combien les perspectives d'économistes comme celle de Tyler Cowen, hein, qui considère qu'il faut envisager la culture dans son ensemble, et que grâce échanges mondiaux, note un enrichissement des menus de choix, je reprends ces termes disponibles dans chacun des pays ouverts aux échanges. On voit aussi combien ces discours légitiment les tentatives de remise en question des politiques publiques de soutien aux industries culturelles. Quatrième forme de rationalisation des industries de la culture et de la communication liées au web collaboratif, on voit combien dans cette quatrième forme le web collaboratif finalement s'insère comme un mode émergent de valorisation, de diffusion et de promotion des industries de la culture et de la communication existantes. Tout d'abord sur la question de la rentabilité. Alors, je n'ai pas le temps d'en parler, mais on sait bien que la plupart des sites du Web 2 ne sont pas rentables. Ils ne sont pas rentables en eux-mêmes. Mais en revanche, adossés à d'autres activités, et le couple Google et YouTube est intéressant à cet égard, on voit combien ils sont en mesure d'augmenter les perspectives de rentabilité, tellement de concourir au dessein industriel et financier d'autres acteurs. Dans le web ou dans le monde des médias. On voit aussi combien le web collaboratif devient un espace absolument central, incontournable aujourd'hui dans la promotion de tout un ensemble de biens culturels qui sont testés, qui sont promus sur le web 2.0. Bref, on voit finalement combien le web 2.0 tend peut-être à renforcer le système que forment les industries de la culture et les industries de la communication. Cinquième élément de rationalisation des industries de la communication, ce cinquième élément a trait à la question de la durabilité des facteurs de production. Alors ça peut sembler étrange de parler de durabilité des facteurs de production, puisque en général on considère plutôt que le Web 2 est un élément qui favorise le piratage, donc l'obsolescence des produits qu'on peut difficilement rentabiliser sur le long terme parce qu'ils vont très rapidement pirater. Alors, certes, mais il y a une autre façon d'envisager la chose, qui est de dire que finalement, le Web 2 peut jouer un rôle central dans la construction des marques des produits culturels. Et si on déplace, si on s'intéresse à la marque, on voit combien justement le Web 2 à travers les communautés de fans, et on reviendra sur les discours de Jenkins, hein, qui invite les industriels à s'intéresser au Web 2 pour construire leur marque, on voit finalement combien ces communautés de fans, en accroissant la marque, sa légitimité, eh bien, peuvent participer à construire des éléments essentiels dans les facteurs de production des industries de la culture et de la communication. Alors, deuxième grand point, je ne sais pas combien de temps il me reste, Gaëtan, 10 minutes, ça va ?
C'est bon.
Deuxième point que je voulais aborder, c'est la question donc des relations entre les industries de la culture et de la communication d'un côté et de l'autre les industries de la consommation et les interrogations que ces nouvelles formes de relations liées au Web 2 font peser sur le rapport entre économie et politique. Alors là, je me placerai dans la suite de réflexions notamment développées par Gaëtan, Bernard Miage ou d'autres chercheurs sur le rôle des médias dans la construction de la sphère privée, de la sphère marchande, de l'interaction que ça peut avoir avec la sphère publique ou la sphère politique, pour voir justement comment le Web 2 poursuit, prolonge ces liens. Alors on peut l'envisager de plusieurs façons. Alors, premier point, on voit combien le web collaboratif est un outil de gestion du temps. Alors, Gaëtan, en 1990, tu écrit, je crois que c'était une partie de ta communication au colloque de Grenoble en 1989, tu avais écrit que les médias sont devenus des instruments essentiels de gestion de l'espace-temps privé. Et plus tard, avec Bernard Miage, autour du phénomène d'informationnalisation, tu avais noté que cette tendance se poursuivait autour justement du processus d'informationnalisation. Alors, on voit aujourd'hui finalement combien ces perspectives sont, me semble-t-il, sont toujours extrêmement d'actualité, puisque le web collaboratif est un élément essentiel avec l'ensemble des nouveaux médias, dans la structuration de l'espace-temps privé, dans la structuration aussi de la vie domestique. Le web collaboratif contribue à forger des modes d'occupation du temps. Qui sont des niches de temps dans lesquelles aussi on voit s'insérer des marchandisations finalement de ces espaces de temps. Là, on peut voir finalement combien aujourd'hui la façon dont les réseaux sociaux sont gagnés par les marques est un élément essentiel, je pense, dans ces espaces temps que l'on passe avec les médias du web collaboratif, espace-temps, de plus en plus gagnés finalement, par des acteurs de la vie économique. Deuxième point qui semble important dans les renouvellements du rapport avec les industries de consommation, c'est la façon dont le web 2 participe à la construction des marques. Alors, on l'avait évoqué pour les industries culturelles, mais c'est vrai également pour l'ensemble pour un grand nombre d'industries de la communication et notamment pour des industries de communication qui relèvent de ce qu'on pourrait appeler les industries créatives. On voit combien les industriels sont soucieux de construire leur marque afin de différencier leurs produits, de le rendre moins facilement substituable et notamment afin d'échapper à une logique de concurrence par les prix. Alors, le web collaboratif peut leur offrir des facilités dans cette perspective. On voit combien, par exemple, des marques comme Diesel, des marques donc, de vêtements ou Agnès B, recourent au web collaboratif pour suggérer finalement qu'il y a un lien entre leur activité et le monde de la culture, voire même pour suggérer que leurs produits ne sont pas des vêtements, mais sont des produits culturels. Alors, ces industriels essayent de provoquer une sorte de fusion d'image entre le produit et le monde de la culture ou le monde divertissement. Alors, c'est, on comprend effectivement qu'ils peuvent utiliser des productions amateurs. La base musicale de Diesel est à cet égard vraiment intéressante, puisque outre tous les produits musicaux qui sont connus, on met en scène sur cette base les créateurs de Diesel en train de consommer ces produits culturels. Alors, troisième élément qui renvoie à la fois aux transformations de la sphère économique et qui renvoie aussi à celle de la sphère politique, c'est les phénomènes de culturisation de l'économie, de chosification de la culture qu'on voit se développer autour du web 2.0. Alors là, on peut faire référence aux perspectives qui sont développées par l'AHA et le RIC autour de leur notion d'industrie culturelle globale. On fait référence aussi aux travaux de O'Connor autour du marché dit de réseau social. Dans cette perspective, c'est notamment très présent chez Lash et Lurie, il est suggéré que finalement la culture devient sincère dans l'économie, tandis que l'économie devient la culture, devient l'élément central de la culture. Et on voit combien ces travaux conduisent finalement à brouiller les frontières entre d'un côté la sphère marchande et de l'autre la sphère politique. Il est suggéré à travers nombre de ces travaux que les échanges interindividuels permis par les réseaux et singulièrement par le web collaboratif sont l'échelon incontournable de la vie politique et peuvent tout à fait amener à un dépérissement des institutions politiques. Sont finalement un espace central dans les formes présentes de démocratie. D'ailleurs, on pourrait mettre en lien ces discours avec d'autres discours économiques qui renvoient à une utilisation de l'économie des coûts de transaction et qui suggèrent que grâce au réseau, eh bien, on verra un dépérissement des firmes. L'idée, c'est que les interactions entre les agents économiques étant facilitées, eh bien, la firme, comme espace sécurisé, n'a plus besoin d'être. Eh bien, on voit exactement le même discours se développer pour décrire le monde politique. Voilà, donc le web collaboratif est le point d'orgue à ces discours qui sont bien évidemment beaucoup plus anciens. Alors, en conclusion, je voudrais dire combien il est parfois difficile pour des chercheurs en sciences sociales de développer de telles des perspectives critiques sur le web collaboratif sans être accusé de n'avoir rien compris aux technologies ou alors d'être élitiste, d'avoir pas compris qu'il y avait là un formidable outil d'émancipation. On voit combien finalement s'impose dans certains cercles les perspectives développées par Jenkins notamment. Jenkins, professeur à MIT, je crois, et consultant pour MTV, qui voit le rôle de l'universitaire comme étant celui finalement d'un passeur entre la société et le monde économique. Voilà, donc c'est une autre perspective que nous avons essayé de développer. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Philippe, pour avoir fait dans les temps, mais ça t'a sans doute un peu contraint ce format un peu plus réduit que celui que tu avais envisagé. Et je pense que ton exposé est déjà suffisamment riche, tu as mis la table pour, je pense, une bonne discussion autour des questions concernant la socio-économie des industries de la culture et de la communication, et plus particulièrement le web collaboratif. Je voudrais, le temps que les gens formulent leurs propres questions, peut-être lancer une première, un double volet. Est-ce que tu considères que ces travaux dont tu as parlé, qu'on peut coiffer, que tu coiffes de ce, titre général de socio-économie des industries de la culture et de la communication. Est-ce que tu crois que ces travaux se caractérisent par le développement d'une approche critique? Est-ce que l'approche critique est une dimension essentielle, fondamentale de l'ensemble de ces travaux-là? Est-ce que c'est une caractéristique qui ressort et qui est perçue, qui serait perçue comme telle dans le milieu français? Et le second volet, justement, de ma question, ce serait que tu essaies de nous... je sais que c'est une vaste, vaste question, mais que tu essaies de nous situer un peu à grands traits l'ensemble de ces travaux, pour coiffer le titre, dans le panorama français des recherches en sciences de l'information et de la communication. Est-ce que ces travaux sont perçus par d'autres courants comme porte-étendard d'une approche critique? Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont un peu caractérisé aussi par l'importance qui prend la perspective critique? Ou est-ce que, bon, bref, de situer dans l'ensemble du panorama français ces travaux-là. Quelle est leur importance et comment sont-ils perçus par d'autres chercheurs en communication qui appartiennent à d'autres courants de pensée? Voilà.
Je vais peut-être commencer par répondre à la deuxième question. Je crois qu'effectivement, pour les chercheurs qui sont situés soit dans d'autres disciplines, soit au sein des SIC, les travaux que tu as pu développer avec toi, Jean-Guy, Bernard, Pierre, etc., sont vus comme étant des travaux effectivement à dimension critique, en particulier parce qu'ils abordent la question du lien entre l'industrie de la culture et transformation de la vie politique, transformation de la sphère politique ou transformation de la sphère de l'espace public. Donc ça, je crois que c'est un premier point et qu'on ne retrouve pas. Par exemple, tous les travaux aujourd'hui des économistes ou en sciences de la gestion, les travaux de Pierre-Jean Bengosi, de Thomas Paris, de François Géminou, lorsqu'ils envisagent les industries culturelles, n'envisagent jamais la question politique. Dans un article qui a été rédigé aussi récemment par un économiste du ministère de la Culture, où il examinait toutes les définitions qui sont habituellement données par les économistes des industries créatives ou des industries culturelles, la question de la dimension politique n'était évoquée. Voilà, donc là je crois que c'est un élément qui vraiment différencie ces travaux d'autres travaux. Et le deuxième élément qui les différencie, c'est le fait qu'ils considèrent que les industries de la culture sont en crise permanente. Et à cet égard, ces travaux mettent l'accent sur le fait qu'il ne suffit pas de supprimer les subventions, il ne suffit pas de supprimer les politiques publiques pour finalement faire mûrir les industries de la culture et faire que les crises de surproduction disparaissent. Donc ça, c'est la seconde dimension critique par rapport à la perspective néolibérale qui est de prôner un retrait des politiques publiques. Alors, ces travaux, me semble-t-il, sont peu nombreux en France. On peut en voir un indice trivial mais parlant lorsqu'on veut recruter des enseignants à l'université sur ces thématiques, on n'en trouve pas. Donc c'est des formes d'approche qui sont très très peu produites, rares. Clairement, je crois que les sciences de la formation de la communication en France évoluent dans d'autres directions et ignorent assez largement celle-ci. Il y a très peu de personnes qui sont formées à ces thématiques en France. Voilà. Alors. Première question que tu avais posée sur la dimension critique, est-ce que ces travaux se perçoivent eux-mêmes comme critiques? Je ne sais pas si j'ai bien compris ta question. Alors je pense que tu serais mieux à même que moi pour répondre à la question. J'aimerais d'ailleurs beaucoup savoir ce que tu en penses.
Je réfléchis.
Avec Bernard, Pierre, Jean-Guy, vous allez être quand même les initiateurs. Donc je ne sais pas en tout cas pour moi, quand je les ai découverts beaucoup plus tard, leur dimension critique m'apparaissait de façon
de façon évidente par rapport aux travaux des économistes. C'était frappant. La dimension critique, elle venait de la prise en compte du cadre politique qui n'est pas présent dans les discours des économistes, par aussi une volonté de confronter stratégie industrielle et discours des acteurs sociaux.
Mais tu me rappelles la question, ce qui est une bonne guerre, mais ma question ne portait pas spécifiquement là-dessus. Je voulais savoir si l'ensemble des travaux que tu ranges sous le titre de socio-économie, de la culture et de la communication, si cet ensemble-là se caractérise, l'ensemble des travaux, hein, les, pas seulement une partie, par la mise en forme, le développement d'une approche critique. Autrement dit, est-ce que dans les travaux que tu as évoqués, est-ce que tous appartiennent à ce courant-là, caractérisé par une approche critique? Une autre manière de formuler ça, c'est est-ce que les travaux en socio-économie de la culture maintiennent toujours l'approche critique comme étant une composante essentielle, ou si on peut identifier d'autres réorientations? Tu vois ce que je veux dire?
Oui, alors non, je crois effectivement que les travaux en socio-économie de la culture, lorsqu'ils ne sont pas construits par ces chercheurs des SIC, donc des informations de la communication, eh bien justement abandonnent assez largement leur dimension critique et sont beaucoup plus tournés vers des préoccupations industrielles ou de l'évolution des politiques publiques. On le voit notamment une tentative intéressante en France de constitution autour du ministère de la Culture, le même service d'ailleurs dans lequel travaillait Bernard il y a bien longtemps, dans les années 80. On voit se constituer un GIS numérique qui a pour volonté de fédérer tous les chercheurs qui travaillent dans cette perspective en mettant ensemble des économistes, des gestionnaires et puis quelques chercheurs en communication. Et cette structure du ministère va être l'échelon incontournable entre les chercheurs et toutes les quêtes et toutes les sources de financement disponibles en France. Quand ça s'est mis en place, moi j'étais très, très surpris. Je pensais que ça allait susciter des perspectives critiques, mais aucunement. Des chercheurs pourtant qu'on connaît bien, mais qui ne sont pas en communication, trouvaient ça au contraire tout à fait intéressant. Donc il y a une sorte de consensus autour de ces perspectives. Et pour évidemment, après, faire des recherches quand même très tournées vers des agendas industriels ou du ministère de la Culture. Voilà, donc me semble-t-il, il y a qu'en communication. À ma connaissance, hein, mais j'espère me tromper, mais en tout cas en France, je vois pas d'autres perspectives critiques, ou alors des perspectives mais très radicales, mais voilà, qui ne sont pas assises sur des études de terrain, par exemple autour de la dénonciation de la concentration, etc. Mais là, il n'y a pas de dimension socio-économique.
D'autres? Oui, Eric.
Bonjour Philippe, c'est Eric.
Tu me vois qu'une partie de la salle, qui n'est pas.
Oui, en fait, tu dois me voir à l'extrémité là. Si,
En fait, je ne sais pas régler la vision et les techniciens sont partis, mais je ne vois que moi.
C'est... Ah bon.
Je vois la salle un peu petit et au lieu de régler en grand sur la salle à Montréal, voilà, ils ont. Et je ne sais pas comment ça marche, je ne voudrais pas confier les choses.
Je veux juste te dire qu'il y a, plus de 25 personnes dans la salle ici, dont Jean Comte qui vient d'arriver. Tu connais bien. Non, il ne vient pas d'arriver, hein, il est arrivé un peu après le début, mais je veux dire qu'il est, là. Eric.
Alors, en fait, je vais continuer dans la perspective de Gaëtan. Il me semble que dans l'ouvrage qui est souvent considéré comme étant fondateur des travaux sur les industries culturelles, qui, sauf si je ne me trompe, s'intitule « Capitalisme et industrie culturelle », hein, 78, co-dirigé par Bernard Miège. Il y a un lien assez fort entre la dimension économique et la dimension idéologique, hein, en disant que les industries culturelles, en fait, contribuent à la production et la reproduction du capitalisme, mais à la fois d'un point de vue économique et idéologique. D'ailleurs, les deux éléments, les deux dimensions, économie et idéologie, étant étroitement liées. Premier élément de réflexion. Le deuxième élément de réflexion, je vais le reprendre à Gaëtan. Alors, je pense que je ne me souviens plus de ses propos exacts, mais je pense que c'est 1997, donc on est quand même quelque chose comme à peu près une vingtaine d'années après. Gaëtan écrit, en fait, il y a dans la phrase un mot dont je suis sûr, et le reste, bon, mais il me contredira si je le trahis, puisqu'il est là, c'est en fait que les travaux sur les industries culturelles ont laissé de côté une dimension philosophico-moraliste qui était plutôt celle de l'école de Francfort, au profit d'une démarche, alors c'est là où je ne suis pas très très sûr si c'est une démarche en termes d'économie politique, de socio-économie, je ne suis pas sûr, froide. En revanche, je pense que le terme de froide y est.
De froid constat sociologique.
L'idée en effet est là. Et donc, je vois une transformation, en fait, entre la fin des années 70 et puis, j'allais dire, une période plus contemporaine. Et en conséquence, le fait que l'accent sur la... On a abordé plusieurs fois déjà ici, au sein du séminaire, en fait, ce qu'est la pensée critique, et plutôt une orientation de la pensée critique qui consiste plutôt à avoir une analyse justement distanciée. Tu parlais toi-même d'ailleurs des études de terrain, de l'importance à accorder aux études de terrain. Et sans doute, me semble-t-il, en tout cas c'est mon hypothèse, au détriment en fait d'une approche plus frontalement critique, alors, mais peut-être que tu l'appellerais militante, du capitalisme, et en tout cas moins dénonciatrice. J'aimerais savoir ce que tu... En fait, c'est une poursuite de la question de Gaëtan. Et est-ce que tu ne penses pas qu'en effet, entre l'ouvrage dit fondateur, hein, 78... Et puis la période actuelle, est-ce qu'il n'y a pas eu ce qui correspondrait d'ailleurs aussi à une évolution de la société, hein, des sociétés, un certain retrait notamment par rapport à la question de l'idéologie?
Alors là, je ne peux pas répondre à la place des auteurs concernés, puisque tu en as un en face de toi, je pense qu'il sera mieux à même que moi de répondre, mais je vais répondre pour, peut-être plutôt par rapport à ce qu'on a fait avec Jacob, où là, au contraire, on a mis la perspective idéologique au cœur de notre travail, peut-être en la considérant, la Godelier, vision de l'idéologie comme une réalité idéale, donc voir effectivement combien l'idéologie est pertinemment présente aux côtés des stratégies des industriels, aux côtés des mutations des politiques publiques. Par exemple, on ne peut rien comprendre au droit de la concurrence en Europe si on ne voit pas que derrière, il y a un autre modèle de société, une société vraiment reposant sur des individus supposément responsabilisés, constructeurs d'eux-mêmes, etc. Donc voilà, on ne peut rien comprendre, donc, je pense, aux stratégies industrielles, aux politiques publiques, si on ne tient pas compte de la perspective idéologique. Et c'est ce qu'on a essayé de faire dans cette... dans cet ouvrage. Alors, est-ce que les chercheurs entre les années 80 et les années 90 sont... voilà, ça, il faut leur poser la question. Je crois pas. En tout cas, quand on met en perspective ces travaux développés avec ceux des économistes, on voit qu'au contraire, la réflexion au niveau du capitalisme, elle est toujours là. Hein, se poursuit finalement... initié depuis ses travaux des années 70, une réflexion sur les mutations du capitalisme dans les industries de la culture et de la communication, avec, me semble-t-il, toujours une prise en compte de l'idéologie.
Philippe, toujours en développant autour de la même question, est-ce que tu as fait allusion à un moment donné à la difficulté de recrutement de nouveaux professeurs appartenant à ce courant de pensée? Une autre manière de formuler la même question, c'est la suivante. Dans des contextes linguistiques différents, chez les anglo-saxons, on retrouve une association, l'Union for Democratic Communication, qui essentiellement regroupe des gens qui appartiennent à la nébuleuse de l'approche critique, hein, grosso modo. Il y a une identité, il y a un support institutionnel à cette... qui n'est pas dominant, hein, c'est à côté de l'International Communication Association, c'est une toute petite association. Mais il y a quand même, on peut identifier des lieux où se développe et se regroupe l'approche critique. dans le monde hispanophone, c'est encore plus patent. Et au niveau international, il existe l'association UDP, un nom long, un nom assez long pour dire que ça regroupe les chercheurs qui se réclament de l'économie politique de la communication et donc d'une approche critique, qui regroupe beaucoup et qui est très vivante dans le milieu à la fois lusophone et hispanophone. Il y a une association en France, en Espagne, il y en a une au Brésil, il y en a une au Venezuela, et il y en a une au niveau international. Ils tiennent des colloques, des rencontres, etc. Bref, on peut encore là identifier un foyer qui n'est pas nécessairement non plus dominant et majoritaire, mais qui fournit des assises et des bases. Est-ce qu'en France, est-ce qu'on a un petit peu l'impression qu'en France, d'abord, on ne retrouve pas de lieu et d'association de cette nature-là, et on a un petit peu l'impression, en tout cas, je pose en termes de questions, mais un peu orienté, c'est est-ce qu'on assiste à un développement de l'approche de l'économie politique de la communication, ou plutôt à un rétrécissement? À une marginalisation de ces chercheurs. Est-ce que, sans qu'il y ait d'association comme telle, mais est-ce qu'à l'intérieur de l'Association française de communication, on trouve un regroupement où se développent ces approches davantage critiques? Ou est-ce qu'il n'y a pas un recul?
Il y a un recul qui, me semble-t-il, est évident. D'ailleurs, on est certains d'entre nous, et on a peut-être tort, nous ne mettons plus les pieds à... Ainsi que considérant que eh bien, la dimension critique, malheureusement, n'y trouve plus sa place, alors on a tort. Mais c'est vrai que les chercheurs en économie politique ne sont pas structurés, contrairement aux exemples que tu donnais en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Et puis d'autre part, les outils, les institutions telles que la SFIC, soit on les utilise pas ou on les utilise mal, en tout cas on a le sentiment que dans ces espaces là il n'y a plus vraiment de place pour une réflexion autour d'une économie politique critique de la communication. Ouais, ça c'est vrai, c'est donc plutôt le modèle du dépérissement,
que sur le point trop négatif conservant des espoirs. J'ai dit,
je pense que c'est pas le propre. C'est pas le propre des sciences dites de la communication, on le voit ce mouvement-là, particulièrement en sciences politiques, c'est encore plus vrai en économie. Et malheureusement, la sociologie vit la même chose. Puis je dirais qu'on voit poindre peut-être à des degrés divers moins en anthropologie. Mais ça va avec le mal de penser moderne, post-moderne, et puis particulièrement occidental. En fait, on vit une crise qui est beaucoup plus économique, mais qui est une crise de la pensée.
Alors, aujourd'hui, bonjour, puis je me permets juste un petit commentaire sur les économistes par rapport au cas français. On voit que, bien évidemment, l'économie et les sciences de la com sont, la communication sont des positions très, très différentes. Le nombre de chercheurs en sciences de la communication est beaucoup moins important, et surtout, c'est une discipline qui n'a jamais trouvé de légitimité. Donc, de ce fait, dans les universités, nous sommes attendus non pas sur les perspectives critiques, mais plutôt sur notre dimension Séguéla. J'emploie ce terme parce qu'il était employé par la vice-présidente du conseil scientifique de mon université, qui en gros me disait qu'on était bon à rien, parce qu'on n'était même pas des Séguéla. On n'était même pas capable de faire ce que faisait le CELSA, et on ne peut de toute façon pas espérer autre chose. Alors, en tout cas, dans le cas français, on voit quand même des chercheurs en économie, et ils se réunissent d'ailleurs dans une salle juste à côté ici. Il y a toute une école de la régulation à Paris 13 qui a une activité importante, une reconnaissance. Et ça, bien évidemment, ça n'existe pas en communication.
D'autres Oui. Pierre Léonard.
Est-ce que je peux parler d'ici?
Oui, tu parles d'ici, il y a des micros un peu partout.
Des micros un peu partout. Bonjour, M. Bouclion, merci de votre présentation. Pierre,
tu entends bien,
un collègue du département de communication. Pour aller dans le même sens que Jean-Guy, je me disais, effectivement, c'est pas facile de critiquer. On dirait que c'est le rôle de l'université, comment elle peut s'inscrire dans le projet social à l'ère du web collaboratif. On dirait que critiquer aujourd'hui, c'est être pisse vinaigre, être esprit chagrin, il faut être de bonne humeur, et même dans nos séminaires de doctorat, on dit à nos étudiants, êtes-vous capable de nous trouver un ou deux auteurs critiques au-delà des enthousiastes? Et on les challenge un peu pour pas qu'on est contre les gens qui sont de bonne humeur, mais on aimerait un petit peu avoir une critique parce que tout le mouvement actuel, quand on obtient des succès comme, enfin, des succès, il faut mettre un gros bémol autour de ça, avec des Facebook qui posent des problèmes actuellement, où les journalistes sont peut-être en avance sur la pensée critique universitaire, quand ils nous disent qu'il y a 3 morts par minute, comment qu'on va faire pour garder l'identité de ces morts-là, puis faire le relevé de ceux qui disparaissent dans des écosystèmes de 500 millions de personnes. Et je me demande si actuellement la critique socio-économique ne s'est pas déplacée du côté des écologistes, des gens de la pensée durable, des systémiciens économistes, puis des socio-sémanticiens au fond. Je cherche les mots là. Mais on dirait que c'est pas que les socio-économistes sont disparus, mais il y a des mots qui sont en train de changer, à mon avis. La manière dont on peut cartographier nos métiers. C'est sûr, c'est plus sexy de dire on fait du gros design socio-technique de système de e-learning que de les critiquer en disant ça aide pas beaucoup le développement durable en IT. C'est une remarque. Et je voulais vous remercier aussi pour votre livre, le web collaboratif, que j'avais acheté juste avant les fêtes, parce que ça prend du courage pour dire, regardez, à une époque où tout le monde est si enthousiaste, il faut réhabiliter cette pensée critique, puis au fond, c'est un compliment détourné à mes collègues qui organisent ces vendredis-là. Puis là, je vois que la salle est pleine. Alors, si vous êtes tout seul, dites-vous bien qu'on est plusieurs à se poser la même problématique que vous. Puis j'en suis très content.
Autrement dit, vous devriez recruter ici.
Oui, vous devriez recruter ici nos jeunes. Ouais.
Annoncez vos postes que vous ne réussissez pas à combler. Annoncez-les ici. Veux-tu réagir à ce commentaire, Philippe?
Oui, je ne sais pas comment c'est au Québec, mais la dimension environnementale, environnement durable, en France, est complètement investie par les entreprises, et notamment les grandes entreprises financières, qui toutes veulent montrer qu'elles sont de bonnes... qu'elles participent à ces bonnes pratiques. Et ça devient un élément absolument incontournable de la communication managériale.
Mais peut-être pour soulever quand même une piste positive et intéressante, moi j'ai été surpris de la popularité extraordinaire de cette initiative du séminaire sur la pensée critique. Je veux dire qu'il y a probablement des gens qui souhaiteraient qu'il y ait un lieu plus systématique, plus organisé. Je ne dis pas nécessairement une nouvelle association. Il ne faut pas multiplier les associations indéfiniment. On a contact et on se retrouve qu'entre nous, ce n'est pas intéressant. Mais peut-être qu'il pourrait y avoir, je ne sais pas trop, à l'intérieur de la SFIC, un pôle qui organise des séminaires, des ateliers, etc. Bref, il y a peut-être là l'émergence, parce que je vois que chez vous, ça a eu des échos aussi, puisqu'il va y avoir début février un séminaire sur la pensée critique. Il y a, je pense, de l'insatisfaction qui se manifeste, hein, quelque part. On n'est pas que 2 ou 3 à dire le point de vue critique a disparu aux associations, disparaît, fait peau de chagrin dans les recherches. Il y a plus de monde que ça qui se pose des questions, je pense, actuellement. Et la popularité de ce séminaire en est un des indices. Je veux dire, vendredi matin, qui n'est pas une... Actuellement, le vendredi, c'est une journée difficile pour donner des activités académiques, pour les raisons que vous connaissez. Et là, il y a plus de 27 personnes à la salle ici ce matin, qui est une activité académique non créditée, je le souligne. Donc, les gens qui sont là le sont parce que ça les intéresse. Mais non, et les étudiants qui sont là ne reçoivent pas le propre crédit, là. C'est pour mettre un peu de soleil dans cette journée un peu grise.
Oui. Tu as raison, Gaëtan, je pense qu'il faut... Il y a un intérêt, peut-être qu'on ne mesure pas, ou même en France, sans doute, et c'est le sens dans lequel il faut aller, mais oui, absolument.
Et l'autre intervention ici?
Oui, bonjour, André Bondou, l'UQAM. Un simple commentaire, merci pour la présentation. Je me disais, le vide d'esprit critique, c'est pas juste à déplorer, il y a personne qui vient au marbre frapper la balle. Je pense que c'est à partir des conditions socio-historiques actuelles. Il faut comprendre d'où vient ce vide de pensée critique. Et je pense qu'il est effectivement produit et reproduit dans les activités, dans les industries, notamment et surtout dans les médias collaboratifs. Notamment par la disparition, Éric en a fait part, la disparition en apparence de l'idéologie. Alors, on tombe dans l'opérationnalisation des choses. On ne dit plus capitalisme, on dit économie, on ne dit plus société, c'est système. Et à ce moment-là, on rentre dans le mode d'emploi et on reproduit des des règles, des modèles. Et à ce moment-là, c'est très difficile, surtout lorsque Pierre Léonard le disait, là, ça s'inscrit dans un discours triomphaliste. Et bien, c'est là que la pensée critique devient contre-productive. Dans ces modèles cybernétiques, une société qui fonctionne à plein régime, à plein rendement. Il y a un compteur de nuit dans les médias sociaux. Voilà, il y a une production. C'est un peu comme si on avait incarné la menace avec des guerriennes, hein, d'une technologie qui se sert de nous comme ressource. On est rendu à plus de 1000, 2000 amis et on peut se demander quelle forme d'amitié on est là. Et on le voit bien que ça. Une espèce de mouvement de subsomption. Alors, c'était mon commentaire, donc, de dire que oui, cette absence de pensée critique n'est pas juste conjoncturelle, elle fait partie du problème même qu'il faut régler et dans l'objet de nos études également. Je pense que c'est primordial et les deux vont effectivement surgir en même temps. C'est en adoptant une pensée critique qu'on va être justement capable de démonter ce discours technique en apparence non idéologique. Il faut retourner à des catégories premières pour ressortir l'épistémologie. Parce que sinon, on est enfermé. C'est Degré qui disait, dans une machine qui se valide par son propre langage d'auto-validation. On tourne en rond. Et c'est comme ça qu'en ce moment, il y a une reproduction très, très serrée. Enfin, simple commentaire. Merci.
Philippe, je vais prendre une ou deux interventions ici. Et puis, si tu veux, tu réagiras ensuite. D'accord. Il y a Michel Sénécal qui veut dire quelque chose.
Oui, salut Philippe. Peut-être participons-nous de ce recul-là, de certains côtés. Être provocateur, parce que, effectivement, j'en parlais avec François en aparté, être idéologique, c'est être déjà étiqueté, éventuellement. Et je me rappellerai des propos de Matlard dans le bouquin d'entretien qu'on a fait. Alors que, déjà dans les années 80, lorsqu'on présentait les travaux de Matlard, par exemple, à l'UNESCO ou à l'ONU, on disait du marxiste, sociologue marxiste, Armand Matlard. Alors que finalement, il disait, pourquoi que finalement on ne dit pas du sociologue néolibéral, machin, truc. Alors donc, évidemment, on est toujours dans cette position d'être éventuellement étiqueté comme idéologique. Alors que l'autre côté aussi, c'est tout à fait idéologique, l'idéologie est partout, et peut-être qu'il y a lieu de revenir à ces aspects-là. Parce que l'idéologie, c'est la politique aussi, on s'entend. Mais certainement aussi, on est encadré par des modes de financement de la recherche, de reconnaissance des travaux universitaires, etc. Et ça, on doit composer éventuellement avec. Je poserai la question à Philippe, maintenant que tu fais justement un ouvrage pisse-vinaigre sur le web collaboratif, comment tu vas être étiqueté maintenant et comment seront tes possibilités d'avoir des financements sur ces questions-là, éventuellement, si ça ne rencontre pas les intérêts de la recherche administrative comme telle.
Philippe?
Oui, alors je réponds tout de suite. Donc, bizarrement, alors c'est peut-être un effet à la Boltorski et Capello. Ça passe bien. J'étais très, très surpris parce que, à la demande, enfin, sur l'ordre de mon présent université, on a une recherche avec l'assureur Generali, c'est justement lui que je prenais comme exemple d'entrepreneur avec un discours sur l'environnement. Ils nous ont redemandé un autre travail, et pourtant, dans le premier travail qui avait été fait sur les marques et le web collaboratif, on montrait que toutes les grandes marques françaises qui recouraient au web collaboratif truquaient complètement leur site, le faux internaute. Alors ça a complètement sapé leur stratégie parce qu'ils voulaient eux-mêmes déployer des structures de Web 2, mais ça les a pas gênés plus que ça. Et ils veulent maintenant nous faire une conférence avec quelqu'un qui a écrit un ouvrage intitulé « Comment le web change le monde ». Et voilà, ils perçoivent pas qu'on a des approches différentes. Enfin, pour eux, tout ça se met dans le même sac. Et même chose du côté du ministère de la culture. Eh bien, et on a beaucoup de demandes de contrats. Là, j'ai 3 contrats actuellement avec le ministère et on est sollicité en permanence. Et on veut nous faire travailler avec Françoise Benhamou. Enfin, voilà, il y a une sorte de construction. Enfin, tous les discours s'équivalent. Je suis très surpris. Enfin, tout est mis sur le même plan, quoi. Et donc, les instances de financement,
ne nous ignore pas, mais au contraire, elle nous intègre.
Est-ce que ça voudrait dire que ces gens-là ne lisent pas?
Oui, ils comprennent pas.
Ça pourrait être une interprétation. Je ne blague pas. Là, tu as écrit un bouquin, mais essaie de faire une intervention percutante à la télévision à partir de ce que tu as écrit dans le bouquin, et peut-être que les choses vont changer.
Alors, on a fait une émission d'une heure sur France Culture avec Jacob, la place de la toile. Alors, c'est France Culture, c'est sûr que...
Oui, on a entendu parler ici.
Alors, puisque tu parles de télévision, j'ai une expérience dans la... C'est pas la télévision, mais c'est la presse, où un journaliste des Échos m'avait contacté ainsi qu'un collègue de Dauphine sur la mondialisation il y a 2 ans, et donc j'ai fait un article qu'ils ont entièrement réécrit et publié sans me demander, où en gros, comme j'étais à Paris 8, ça voulait dire que j'étais un chercheur critique, donc j'étais contre la mondialisation, alors qu'évidemment le chercheur de Dauphine de droite était pour la mondialisation. Donc voilà, ils avaient intégré cette dichotomie. Alors moi, dans mon article, je n'avais pas du tout dit que j'étais contre la... Enfin, je n'avais pas du tout formulé les choses comme ça, mais ils ont tout transformé pour que ça corresponde à cette opposition simpliste. Ils ont publié les 2 articles, hein, comme deux illustrations, finalement, de discours de chercheurs. Voilà, c'est du spectacle.
D'autres personnes veulent s'exprimer?
Philippe,
as-tu pensé
à aller chez Drucker?
Jean?
Oui, avec une première réserve, c'est bien que je parle d'ici, c'est pas un point de vue montréalais que je vais exprimer, parce que j'ai pas encore eu le temps de m'y faire, il y a une semaine que je suis là, mais je suis encore en résonance avec les deux interventions sur cette banalisation ou cette invisibilité de la pensée critique. Je me dis que peut-être nous n'avons non pas une responsabilité, mais qu'on a aussi à renouveler les mots. Parce qu'il est vrai que la notion d'idéologie dans les années 70, très forte, portée par Althusser, c'était la fausse conscience. Et les intellectuels pouvaient apparaître comme étant apportant une conscience et une connaissance à des phénomènes qui étaient masqués. Et puis tu disais, c'était présent ici. Au fond, on est tous porteurs d'une vision idéologique, c'est-à-dire d'une représentation de nos rapports, alors qui passe par la technique, qui passe par les relations interpersonnelles, qui passe par les processus de production ou de diffusion. Et je me demande si on n'a pas aussi intérêt à renouveler le vocabulaire, parce qu'on est prisonnier de ce gel du vocabulaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, peut-être... plutôt que de mettre l'accent sur la terminologie, sur le syntagme pensée critique, faudrait-il peut-être pointer ce que la pensée devrait avoir en elle-même, qu'elle se veuille critique, descriptive, compréhensive, sur ce qu'elle implique comme réflexivité, donc comme nécessité d'échapper à la segmentation, parce qu'il me semble qu'une des raisons là qui traversait le panorama et le point de vue que tu développais est lié à l'extension même des savoirs sur les phénomènes de communication, à leur segmentation, et ce qui a peut-être disparu depuis les années 70, c'est la mise en relation des différents territoires, terrains, comme si le succès, au fond, de nos études, l'extension des technologies, l'extension des services, l'extension des acteurs, nous avait tous compartimenté dans des bulles, et peut-être en mettant l'accent sur la notion de pensée, on pourrait appuyer le fait que toute pensée est forcément réflexive, qu'elle est forcément relationnelle, et que c'est à partir de là aussi qu'on pourrait échapper à ce sentiment, au fond, qui me paraît, moi, totalement paradoxal. Quand on lit les journaux, on parle de crise financière, on parle de crise politique, on parle de crise économique, et tout ça se fait dans un satisfecit, dans une bonne conscience, dans un enjouement qui fait qu'on est peut-être tous témoins d'une schizophrénie terrible. C'est que le monde va mal, on sent qu'on est à un tournant terrible. Alors, il est vrai qu'il y a le facteur temps, que ça ne se produit pas de la même manière dans chacun de ces domaines, Et peut-être qu'une véritable approche du réel, c'est-à-dire la mise en relation de tous ces phénomènes, pourrait redonner sens à une pensée critique qui consisterait à voir quels sont, enfin, à revenir au sens même du mot critique, mise en crise. Et pour reboucler, là, ça, je me sens un peu répétitif, mais pour reboucler cette interrogation, est-ce que toute pensée n'est pas, au fond, une mise en crise des conditions mêmes de son discours? Donc il y a peut-être un paradoxe. Oui, cette affirmation d'une pensée critique semble avoir disparu, mais sa nécessité me semble d'autant plus forte que plus rien réellement ne fonctionne. Bon, ça fonctionne dans la technicité, ça fonctionne dans la performance efficace, ça fonctionne dans le court terme, mais dans les perspectives de projet social, de mise en synergie des acteurs et de résolution de ce à quoi on se confronte, ça ne fonctionne pas.
André Mondeau vient intervenir, et par la suite, je vais te demander tes dernières réactions pour conclure avant la pause.
Très rapidement, je voulais ajouter aux collègues. Propos de collègues ici, cette non-pensée critique, cette non-synthèse qu'on n'arrive pas à faire, elle est aussi imputable, je pense, à la très grande place qu'occupe la méthodologie, hein, au point d'éclipser les problématiques. Et parce que lorsqu'on fait la socio, par exemple, bon, moi je suis sociologue, c'est pas de ma faute, et puis on arrive pour parler de reproduction sociale, on fait de la macro, la première question qu'on va nous poser, c'est quel est votre terrain? Ben, c'est sur les reproductions sociales. Et on le voit bien, c'est cette préoccupation de méthodologie draine vers le bas, draine vers une espèce de démembrement, et ce qui fait qu'on a des très bons méthodologues, mais on a des problématiques qui sont nulles à fertiliser.
Est-ce qu'il s'agit vraiment de méthodologie ou de technique de recherche?
Ben, je pense qu'effectivement...
Parce que la vraie méthodologie est épistémologique et critique par essence. Ça.
C'est la force, c'est une victoire de l'empirisme et du pragmatisme.
Philippe, est-ce que c'est toi qui as le mot de la fin, avant qu'on prenne une pause et qu'on passe à l'intervention de Marc Caron?
Je suis d'accord avec ce que vient de dire André, puis je souhaite remercier les gens pour la perspective qu'il offre et qui me semble effectivement très, très forte et vers laquelle il faut se diriger. Je crois que c'est vraiment très, très important ce renouvellement de la pensée, ce renouvellement des mots auxquels appelait Jean. Merci.
On prend une pause 10 minutes. Je vous demanderai de vraiment revenir dans 10 minutes pour que vous puissiez reprendre avec la présentation de Macron.